Bien, nous allons clôturer le premier item de cette réflexion d'approche pluridisciplinaire du religieux par la cinquième séance, puisque c'est déjà la cinquième fois que nous nous retrouvons, avec l'intervention de Christian Salençon, que l'Université populaire remercie pour sa participation malgré les lourdes charges de travail qui sont les siennes. Christian Salençon est théologien. Il est aussi directeur de l'Institut des sciences et des théologies des religions à Marseille. C'est à ce titre-là que nous lui avons demandé d'intervenir ce soir sur le thème monothéisme et polythéisme. Je vous remercie.
Bonsoir. Le sujet qui m'a été demandé de traiter est le suivant. Le monothéisme est-il originel ? Ou bien est-il l'aboutissement du polythéisme? La question porte donc sur les rapports qu'entretiennent le monothéisme et le polythéisme. Autant le dire tout de suite, sur un tel sujet, nous risquons d'être piégés par notre histoire et par notre idéologie. Il ne faisait aucun doute dans l'idéologie de la modernité que le polythéisme était un état antérieur au monothéisme. Plus encore, le polythéisme était un état inférieur, une sorte de déchéance d'un monothéisme originel qui caractérisait la relation originelle de l'homme avec Dieu. Ce monothéisme originel, on le lisait dans les premiers chapitres de la Genèse, lesquels étaient lus d'ailleurs à la période moderne exclusivement au sens littéral, contrairement au Moyen-Âge, où on savait qu'il y avait au moins quatre sens de l'écriture, et donc ils étaient lus de manière exclusivement fondamentaliste. Les peuples qui vivaient dans le culte des ancêtres ou des divinités diverses étaient dans l'obscurité, et il fallait que l'Occident porte à ces peuples quand même les lumières de la civilisation. Les missionnaires catholiques et protestants faisaient partie de la panoplie de l'action civilisatrice de l'Occident chrétien, pour convertir au monothéisme ces animistes et ces polythéistes de toutes sortes. À vrai dire, le discours sur l'action civilisatrice était largement décalé par rapport aux faits. Rétablir le monothéisme perdu par ces peuples n'était tout de même pas l'objectif premier. Il y avait une hiérarchie dans les préoccupations. Lors de la conquête du Nouveau Monde, l'ordre des priorités était clair, l'or, les épices et les âmes. Il y a quand même des hiérarchies. D'autant plus que certains se demandaient quand même si ces gens avaient une âme et il y eut de grands débats pour savoir si les droits humains devaient s'appliquer intégralement aux Indiens. La querelle de Valladolid entre Bartolomeo et Las Casas, le docteur Sepúlveda, sous la présidence de Domenico de Soto, et célèbre, elle fut d'ailleurs décisive, puisqu'elle inaugure ce qui deviendra plus tard, après bien des péripéties, la question des droits de l'homme. Tout cela, et ce que je suis en train d'évoquer, en dit long sur les rapports compliqués de l'Occident avec l'altérité. J'aime beaucoup ce qu'a écrit Todorov, un bouquin de Todorov qui s'appelle « La conquête des Amériques ou la question de l'autre ». Au début du 19e ou du 20e siècle, les discours qui justifient la colonisation sont tout aussi significatifs. Ils s'appuient souvent sur le positivisme ou sur le darwinisme pour justifier une inégalité des races. On pourrait dire ça chez Renan ou chez Auguste Comte ou encore chez Jules Ferry. Écoutez ce que dit Jules Ferry, 1885. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis pour elles qu'il y a un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. La conversion au monothéisme, en les arrachant aux croyances vulgaires, faisait partie de cette mission civilisatrice. Il me semblait utile de faire ce petit rappel, en commençant cet exposé, pour éveiller notre esprit critique, car nous ne sommes pas neutres sur des questions comme les rapports entre le monothéisme et le polythéisme. Nous avons une histoire, nous avons une culture, et nous avons eu beaucoup de débats idéologiques là-dessus. D'autant que, vous le savez, la colonisation fait partie des impensés de notre culture. J'aime beaucoup les travaux qui se font en ce moment, qui sont conduits en particulier par Sandrine Lemaire, etc. Voilà pourquoi, aussi, on pourrait, à notre insu, inverser les affaires et renverser la proposition en faisant un éloge quelque peu rousseauiste du polythéisme au détriment des monothéismes dont chacun, dès lors, s'acharnerait à dénoncer comme violent et impérialiste, en opposition avec des polythéismes qui seraient, eux, conciliants et tolérants, ce qui, par une ruse de la raison, comme disait le philosophe, nous déculpabiliserait quelque peu, mais ne nous permettrait pas de penser pour autant la question de la colonisation. Je crois que le sujet a été abordé. Je crois qu'on aurait vite fait de charger les religions monothéistes de toute leur capacité à générer de la violence en occultant la violence de la colonisation. La République, nous ne l'apprend pas dans les livres d'histoire, mais la conquête de l'Algérie, c'est un quart de la population éliminée. C'est 700 000 morts sur 3 millions d'habitants. Et la guerre d'Algérie, publiquement appelée événement d'Algérie, c'est 200 000 morts. Les violences des 19e et 20e siècle sont difficilement imputables comme telles aux religions. Donc pourquoi ce discours trop univoque? Il a sa part de vérité, mais il est trop univoque. Est-ce que ce ne serait pas pour blanchir le libéralisme? Est-ce qu'on peut dire que les guerres de 14, 18, 39, 45, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, sont des guerres de religion? Cela me paraît un peu excessif. Ceci étant, il ne fait aucun doute que les monothéismes ont fait montre, au cours de l'histoire, d'une réelle capacité de violence, et que le christianisme a contribué à la division de l'Europe. On pourrait imputer une violence, et on doit imputer une violence réelle aux religions, mais on ne peut pas pour autant, sur une incontestable capacité de violence réelle, faire comme si le libéralisme, la mondialisation, étaient de simples mouvements commerciaux innocents, dépourvu de toute volonté hégémonique. Nous serions en pleine idéologie. Si je me souviens bien de Marx et de Engels, et de ce qu'ils écrivaient sur l'idéologie, précisément c'est ça l'idéologie. C'est laisser à penser que les idées et les croyances seraient en fait les raisons principales de l'histoire, quand on sait que les formes économiques et politiques ont une part hautement importante. Voilà. Sur tous ces sujets, nous ne sommes pas dans une innocence première. Je voulais le dire, je l'ai dit de cette manière-là. Nous avons une longue histoire, nous avons combattu les polythéismes, au profit sans doute des églises, sans doute aussi de la République. Je souhaitais mettre en garde en commençant sur le background culturel qui est le nôtre sur ces questions-là. J'en viens à ma première partie sur le monothéisme. J'en aurai une seconde qui sera sur le polythéisme, la troisième sur les rapports entre les deux. Vous voyez que mon plan n'a rien d'original, hein, de banalité. Voilà, le monothéisme. D'abord, question de vocabulaire. Question de vocabulaire. J'ai plusieurs fois entendu l'anthropologue Jean-Paul Roux dire que le polythéisme n'existe pas, ou bien qu'il n'existe que le polythéisme. C'était une manière un peu curieuse, mais intéressante, je trouvais, de faire voler la distinction en éclats, ou au moins de l'interroger. D'interroger, en fait, la pertinence de ces concepts. Le monothéisme est un terme, il voulait dire, je vois vous être intrigué, il voulait dire sans doute que ces formules, merci beaucoup, que ces formules sont trop figées pour rendre compte de la réalité. Et c'est pourquoi il est, avec humour, il est cassé un peu. Le terme de monothéisme est un terme qui est forgé tardivement. Il semble que ce soit au XVIIIe siècle. Et il faudrait se demander pourquoi, à un moment, on a éprouvé le besoin d'inventer ce terme-là. Il a été l'objet, bien sûr, de beaucoup d'écrits. Je souscris à ce qu'a pu écrire là-dessus Régis Debray, dans un style inimitable. Du monothéisme, tout a été dit. Et son contraire, qu'il est un humanisme et une barbarie, une libération et un fléau, la guérison de notre mal-être et la névrose de substitution. Il s'est fait là-dessus une sorte d'alternance, un duo d'opéra. Vous avez reconnu le style de Debray. Pourquoi ? Peut-être parce que cette catégorie ne rend pas compte de la réalité, parce que la réalité religieuse ne se laisse sans doute pas circonscrire entre deux termes opposés et dans des raisonnements qui sont dès lors uniquement de manière binaire. Le concept de polythéisme, lui, est un concept polémique et dévalorisant, qui a été formé au XVIIIe siècle pour succéder à celui d'idolâtrie. Il a servi à repousser, en dehors du champ religieux, les manifestations religieuses et les croyances qui ne relevaient pas des monothéismes. Cette simple remarque nous alerte déjà sur la pertinence de ces deux termes, monothéisme et polythéisme. Deuxième point, les monothéismes abrahamiques. Lorsqu'en Europe on parle de monothéisme, sans autre précision, on désigne en général les trois monothéismes abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, dont l'ancêtre éponyme est Abraham. Or, ils ne sont ni les seuls, ni les premiers. On reconnaît aujourd'hui des monothéismes africains, sans doute antérieurs au monothéisme abrahamique. Mais, dans la représentation occidentale, le monothéisme est né du judaïsme, puis il s'est transmis au christianisme, et enfin, il a évolué vers une revendication d'un monothéisme strict au moment de la naissance de l'islam. Dans la représentation commune, le monothéisme est pensé comme un progrès dans l'histoire des peuples. On allie alors la double idée d'un monothéisme qui serait originel et qui se serait perverti dans un polythéisme, et celle d'une sortie du polythéisme comme une nécessité, comme un progrès pour les peuples, le terme de progrès dispensant de toute autre justification. On a prêté peu de considération aux autres formes religieuses. Je suis impressionné par le temps qu'il a fallu pour que l'on accorde en France, en Europe, une certaine considération à l'hindouisme ou au bouddhisme, dont on connaissait parfaitement l'existence. Au Moyen-Âge, Louis IX avait des relations avec la cour des Mongols. Mais il faut attendre Schopenhauer et Nietzsche à la fin du XIXe siècle pour qu'on ait bien commencé à s'intéresser au bouddhisme, par exemple. Cette ignorance des grandes traditions religieuses de l'Orient fait comprendre, a fortiori, le peu d'intérêt que l'on avait pour les religions traditionnelles africaines ou amérindiennes, à l'exception notable, bien sûr, et comme toujours, d'hommes remarquables et un peu largement en avance sur leur temps. Je pense par exemple franciscain Bernardo de Sahagún, qui, découvrant le Mexique, se met à écrire et à relever tout ce qu'il peut de la culture aztèque et de la religion aztèque. Mais revenons au sujet. Est-ce qu'on va pas un peu vite en besogne lorsqu'on dit que le monothéisme et que les monothéismes abrahamiques sont originaires et viennent d'un monothéisme juif dont Moïse serait le fondateur? Il m'arrive de regarder, pour mon travail, quelques livres scolaires. Je vous le dis tout net, je suis effaré de ce que la République apprend à nos enfants. On parle de Moïse, ou mieux encore d'Abraham, comme si on les connaissait. On connaît leur itinéraire, hein. On vous le décrit d'ailleurs, on vous décrit l'itinéraire d'Abraham sur les livres d'histoire. Il est parti d'Ur, en Chaldée, comme dans les mots croisés. On sait même les dates où ils ont vécu. Dans l'enseignement que dispense à des étudiants en théologie, on fait preuve, je vous l'assure, de plus de circonspection. Qu'est-ce que nous savons, en dehors du texte biblique, qui, comme chacun sait, n'a aucune prétention historique, qui peut éventuellement nous donner des indications, mais dont le propos est ailleurs? Qu'est-ce que nous savons d'Abraham et de Moïse? On peut supposer leur existence, certes, mais est-ce qu'on peut aller plus loin d'un strict point de vue historique? Je ne parle pas de l'intérêt de la Bible, ça c'est un intérêt théologique qui est très important, mais je ne parle pas de ça. J'extrais la citation suivante de cette encyclopédie. On fixe l'apparition effective et incontestable de la religion monothéiste par le peuple hébreu à la sortie d'Égypte. Le Dieu unique prit plusieurs noms, dont l'un le plus répandu dans la Bible est El. Le Dieu El est bien connu des Nimrois. Parce que c'est le dieu tutélaire de Nîmes, vous le savez, puisque c'est celui que l'on acclame dans les arènes de Nîmes, quand on dit Olé. Vous le savez, hein, enfin. Mais ça, c'est une blague. Mais c'est sérieux. Sérieux. Mais qu'est-ce qu'il en sait, l'auteur de cette encyclopédie? Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce que nous savons de la sortie d'Égypte, historiquement parlant, encore une fois? Le livre de la Bible n'est pas un livre d'histoire. Il est fort difficile aux exégètes de démêler dans le texte biblique les fragments d'histoire qu'il peut y avoir. De surcroît, il est probable qu'au lieu d'une apparition effective et incontestable de la religion monothéiste, dont je laisse la responsabilité à l'auteur de cet article, il est probable qu'avec Moïse, on ne soit pas dans un monothéisme. En tout cas, on n'est pas dans un monothéisme strict, c'est sûr. On est plutôt dans un énothéisme. Dans un énothéisme. Énothéisme, peut-être vous ne connaissez pas le terme, ça s'écrit avec un H. L'énothéisme, ben, c'est une catégorie supplémentaire intéressante. L'énothéisme, c'est de croire en un Dieu, mais sans pour autant dire que les autres n'existent pas. Voilà. On donne sa confiance en un Dieu, mais on ne dit pas que les autres n'existent pas. C'est exactement, d'après le texte biblique, je peux me fier qu'à ça, c'est exactement ce que l'on voit de Moïse dans le texte biblique. Les Hébreux pratiquent un énothéisme centré sur Yahvé, un attachement exclusif à lui. Il est d'ailleurs désigné comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une désignation qui n'est pas anodine, qui relève plutôt d'un Dieu tutélaire, d'un Dieu lié à un peuple. Voilà. La foi en ce Dieu, pour les Hébreux, n'empêche pas la Bible hébraïque de parler des autres dieux. Et quand elle en parle, c'est pas pour dire qu'ils n'existent pas, c'est pour dire qu'ils sont inefficaces. Ce qui pose des questions, c'est un propos polémique, c'est autre chose. Ce qui caractérise en fait la relation mosaïque au divin dans le texte biblique, je ne me prononce pas sur l'histoire, c'est son attachement exclusif à un seul Dieu, mais ce n'est pas l'affirmation qu'il est le seul Dieu. On n'est pas en présence d'un monothéisme strict et exclusif de toute autre divinité, on est à proprement parler en présence d'un énothéisme. Donc, dire que Moïse est l'inventeur du monothéisme est au minimum un abus de langage, sûrement une erreur historique. Certes, on pourrait peut-être dire que par la suite, le monothéisme hébreu est né de cet énothéisme, encore faudra-t-il être prudent, nous le verrons ultérieurement, mais on ne peut pas dire en rigueur de terme que Moïse soit l'inventeur du monothéisme, la question est plus subtile. Ce qui nous conduit à rectifier une deuxième affirmation, souvent entendue. Est-ce que le monothéisme est né du polythéisme? Eh bien, la réponse est non. Non en ce qui concerne le monothéisme judéo-chrétien musulman. Le monothéisme est peut-être né d'une évolution de l'énothéisme vers le monothéisme, et sans cette hypothèse ouverte, mais nous pouvons dire nettement que le monothéisme juif et donc chrétien et musulman, n'est pas né du polythéisme. Nous pouvons même dire l'originalité de l'invention mosaïque, car il y a une originalité. L'originalité n'est pas d'affirmer qu'il y a un seul Dieu, mais l'originalité pour Moïse porte sur la question de l'alliance. Ce qui est original dans la compréhension mosaïque du divin, c'est de penser qu'il y a une alliance passée entre Dieu et ce peuple-là. Voilà, ça c'est une originalité de Moïse. Mais le monothéisme, non. Voilà, cette notion d'énothéisme est assez centrale. Elle fait comprendre que le monothéisme, contrairement à une idée répandue comme ça, quand on a, voilà, n'est pas une épuration consciente du polythéisme. Il n'est pas né, je cite Botero, il n'est pas né de l'élimination progressive et raisonnée des autres dieux, de manière qu'il n'en reste plus qu'un. Il est l'effet d'une invention particulière sur le plan religieux, totalement indépendante du polythéisme ambiant et qui persistera longtemps encore. Fin de citation. Ou encore, ce que dit un grand spécialiste de l'Égypte, Asman, il dit ceci, on ne postule pas la singularité d'une existence de Dieu, mais celle d'une relation. Voilà l'originalité, c'est la singularité d'une relation entre un Dieu et son peuple. Voilà l'originalité mosaïque. Bien. Ce qui caractérise ce Dieu, je ne veux pas dire un peu plus, mais ce qui caractérise ce Dieu, c'est d'être un Dieu jaloux, comme on le lit à toutes les pages de la Bible, dans le passage central, par exemple, du Décalogue, ben il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais tu n'auras pas d'autre Dieu, mais tu ne te prosterneras pas devant eux, car je suis un Dieu jaloux. Voilà, un Dieu jaloux, parce que précisément, il y a une relation qui doit être préservée entre ce Dieu et le peuple. Alors, est-ce qu'il ne faut pas juger le monothéisme du côté de l'Égypte, plutôt du côté de l'Égypte? Alors là encore, il faut être prudent. On sait l'engouement pour l'Égypte et la littérature à succès qui va avec. Notre relation avec l'Égypte est ambivalente et ça ne date pas d'aujourd'hui. La belle exposition actuelle à l'Institut du monde arabe sur Bonaparte et l'Égypte, Feu et Lumière, 1769-1869, le montre très bien. J'ai eu la chance de la visiter la semaine dernière, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre dire que le monothéisme est né en Égypte et que Moïse l'a appris en Égypte, évidemment, puisqu'il était en Égypte. Donc, il a appris en Égypte, c'est simple les affaires. Le propos d'ailleurs est un peu apologétique quand on le dit. C'est pour dire que ce n'est pas l'Égypte qui l'a inventé, c'est les Égyptiens qui sont un peu apologétiques. Enfin, hein. Alors, y a-t-il un monothéisme dans l'Égypte ancienne ? La réponse, vous passez tout le monde tous la même chose, bien sûr. La réponse est sans doute positive. Si en Israël on trouve un monoïadisme, en Égypte on trouve, semble-t-il, un monothéisme exclusif sous la forme du culte de la lumière et du soleil, qui a été introduit sous le règne du fameux Akhenaton et de la non moins fameuse et célèbre Néfertiti, bien sûr. De fait, c'est antérieur à Moïse. Akhenaton est le nom, vous le savez, choisi par Amenophis IV au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Il semble bien que l'on soit là en présence de monothéisme exclusif du Dieu Soleil. Pour être plus précis d'ailleurs, il faut préciser que ce n'est pas le Soleil qui est le Dieu, mais que c'est la lumière qui est contenue dans le Soleil, ce qui dit d'ailleurs une pensée beaucoup plus élaborée. Par un ordre venu d'Akhenaton, vous le savez, les autres temples des autres divinités ont été fermés, les cultes et les représentations des autres dieux ont été interdits. On a parlé à propos d'Akhenaton d'un théoclasme, mot calqué sur l'iconoclasme. Alors ce dieu soleil produit non seulement la lumière et la chaleur, mais comme la lumière et la chaleur sont la source de la vie, ce dieu est créateur, il est la source de la vie, des êtres, du monde, du temps, etc. Cette théologie est une cosmologie, toutes les théologies sont des cosmologies d'ailleurs, mais certaines théologies sont des grandes cosmologies. Et celle-là en est une, les cosmologies aztèques aussi sont des grandes cosmologies. Toute théologie, c'est des cosmologies, des anthropologies toujours. Mais cette théologie est fondamentalement une cosmologie. Voilà. On est en présence, dit Jan Assmann, que j'ai cité tout à l'heure, qui est un grand égyptologue, il dit on est en présence d'une démythification rationaliste. Je ne suis pas en mesure de le juger, mais lui le dit comme ça. On est en présence d'un monothéisme. Certains ont préféré parler d'un monolatrisme. Alors vous voyez, ça c'est pour simplifier encore les choses. Hein. Mais certains, monolatrisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le seul qu'on adore. C'est le seul qu'on adore. Ce qui veut dire que les autres dieux n'ont pas nécessairement disparu parce que Akhenaton a dit qu'on fermait les temples. Quoi. Voilà. Ça laisse cette place ouverte. Ça veut dire que le culte des autres dieux a pu continuer à exister de manière plus ou moins cachée ou dans certains endroits plus retirés. Voilà ce que je veux dire. Mais avec Akhenaton, on est plutôt en présence de monothéisme quand même. Hein. Quand même. La restriction, c'est que ce monothéisme n'a pas duré longtemps. Hein. Ça n'a pas duré longtemps. Le règne d'Akhenaton est très très court. Et vous savez que c'est pratiquement Toutankhamon qui lui succède, après un petit battement, Toutankhamon qui lui succède et qui, il aurait dû s'appeler Toutankhaton. Il s'appelle Toutankhamon. Ça veut dire qu'il a détruit les cultes à Aton et il a restauré le culte à Amon et à d'autres divinités. Il a même rasé la ville d'Akhenaton, qui maintenant aujourd'hui telle la Marna, voilà. Et il a fait ça de manière tellement bien, si je puis dire, qu'on va perdre la trace, on va perdre la trace, et qu'on redécouvrira tout ça au XIXe siècle. Hein. On a perdu la trace de ce monothéisme. Alors on le redécouvrira au XIXe, avec un peu de romantisme. La belle Néfertiti a participé à la redécouverte d'Akhenaton, quand même. Hein. Les certitudes sur les genoux d'Akhenaton, mais si vous voulez, ça réveille le romantisme quand même. Voilà. Alors, on peut dire avec les nuances que j'ai essayé de laisser entendre qu'il y a un monothéisme égyptien, mais il est de courte durée, guère plus d'une quinzaine d'années. Alors, Moïse a-t-il reçu le monothéisme de l'Égypte, comme on le dit souvent? Alors, hormis le fait qu'il est difficile de savoir historiquement ce que fut la vie de Moïse, quand est-ce qu'il a vécu, où il a vécu, c'est quand même une grosse inconnue. À supposer que la Bible nous donne quelques indications fiables, ce qui est le deuxième procès connu. Il est difficile de dire que Moïse a emprunté le monothéisme à l'Égypte ancienne, au moins pour deux raisons. D'une part, parce que dans le cas de Moïse, il ne s'agit pas à proprement parler de monothéisme, comme j'ai essayé de le dire précédemment, et d'autre part, parce que le monothéisme d'Akhenaton ne lui a pas survécu. En fait, Akhenaton est antérieur d'au moins un siècle au présupposé de Moïse, au moins un siècle. Donc une transmission de ce monothéisme semble difficilement pensable. Il a été durablement effacé par tout un camp. Le monothéisme juif, en fait, va naître à la période exilique. L'armée babylonienne envahit Jérusalem en 597 et déporte une partie de la population. 10 à 15% environ, selon les données de l'archéologie. Voilà. Le choc de l'exil, cet exil de la population des Hébreux à Babylone, va profondément interroger le monoïavisme. Le dieu tutélaire, qui caractérisait jusque-là le dieu des Hébreux, ne peut pas survivre à une triple perte, la perte du pays, la perte d'un roi et la perte du temple. L'énothéisme juif ne peut pas survivre à ça. Alors, on va assister à la transformation d'un dieu tutélaire qui protégeait Juda et qui était circonscrit dans le temple, le roi et le pays, à un dieu qui va devenir un dieu universel et unique. C'est de la période exilique que date la composition de la plupart des grands textes bibliques. On a deux types de discours. On a des discours deutéronomistes, du don du cinquième livre de la Bible, qui insistent plutôt sur la fidélité à l'Alliance. Et puis on a les écrits dits sacerdotaux, qui, eux, vont développer le terme de l'universalisme de Dieu. Le monothéisme juif naît à ce moment-là. Il est une réponse au grand bouleversement, y compris dans la foi des Hébreux. C'est l'évolution d'un Dieu tutélaire vers un Dieu pensé désormais comme un Dieu universel et unique. Yahvé devient le Dieu des nations. Il est le Dieu unique, il est aussi le Dieu des nations. Le caractère particulier de l'alliance entre le peuple hébreu et Dieu pour les Hébreux demeurera, mais il n'est plus seulement le Dieu d'Israël, il est le Dieu des nations, et même il se sert de Cyrus. D'ailleurs, dans la Bible, Cyrus, le païen, Cyrus, le perse, devient un envoyé de Dieu, quand même, dans le texte biblique. Voilà. Là, on a sans doute une évolution de l'énothéisme vers le monothéisme. Mais vous le voyez, ce n'est pas une espèce d'évolution lente et paisible et conceptuelle, où on serait passé d'un décantage, d'une pluralité, le mot ne doit pas exister, décantage, mais de la pluralité des dieux, petit à petit, avec une réduction du panthéon, jusqu'à enfin un dieu unique. Non, cela ne s'est pas passé comme ça, ça s'est passé dans le grand choc qu'a été l'exil. Il serait de plus inexact de penser que ce monothéisme est uniquement juif. Le monothéisme au VIe siècle est dans l'air du temps. On le trouve à la même époque chez les philosophes présocratiques. Xénophane de Colophon, par exemple, qui dit « Il n'y a qu'un seul Dieu, maître souverain des dieux et des hommes, qui ne ressemble aux mortels ni par le corps ni par la pensée. » Quand même, c'est une déclaration monothéiste, ça va. On le trouve aussi à Babylone, à la même époque, hein, où le roi babylonien Nabonide veut faire du dieu lunaire le dieu unique de l'Empire. On le retrouvera en Perse, chez les souverains achéménides, à la même époque, qui font preuve aussi d'un monothéisme inclusif, on peut parler d'un monothéisme inclusif, puisque leur foi monothéiste à Ahura Mazda est très tolérante à l'égard des autres dieux. Ahura Mazda est le grand roi, je cite une inscription royale de l'époque, « Ahura Mazda est le grand roi qui a créé cette terre ici, qui a créé ce ciel là-bas, qui a créé l'homme, qui a créé le bonheur pour l'homme, et aussi qui a fait d'Abus roi, quand même. » Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'on s'accorde à reconnaître qu'il y a eu une réelle influence du monothéisme perse, de cette grande civilisation achéménide, du monothéisme perse sur l'élaboration, la construction du monothéisme juif à la période exilique. Voilà. Je m'excuse, j'ai un peu compliqué les affaires, mais ça suppose ça, quoi. Alors, le monothéisme chrétien, je vais aller plus vite, il est l'héritier du monothéisme juif post-exilique, pas de problème. L'apport de Jésus est important, délicat à déterminer, très délicat à déterminer. Voilà. Jésus est un juif, et sa représentation de Dieu est et demeure juive. Nous avons la chance aujourd'hui de mieux connaître ce qu'on appelle le judaïsme palestinien, c'est-à-dire le judaïsme à l'époque de Jésus, jusqu'au judaïsme rabbinique qui naît en 70 au moment de la chute du temple de Jérusalem sous la poussée des armées de Titus. l'empereur qui n'est pas encore empereur, fils de Vespasien, pas encore empereur, du futur empereur Titus. Voilà, 70, avec la destruction du temple. Mais donc, on connaît mieux les groupes, les pharisiens, les zélotes, les esséniens, etc., tout ça. Et donc, ça nous permet de mieux comprendre le contexte juif et du coup, de mieux comprendre l'originalité de Jésus. Mais il faut y aller très, très doucement. Il a des accents particuliers dans son judaïsme, ça ne fait pas de doute, mais il est profondément juif, profondément inscrit dans la tradition juive, profondément fidèle à la loi, même s'il transgresse un certain nombre de lois quand c'est nécessaire. Voilà, il a de la liberté, mais il reste bien juif. Il appelle Dieu son père, c'est pas complètement original, mais enfin, c'est fréquent dans sa bouche, et il semble même que le terme araméen dans lequel il le dit, Abba, soit un terme qui soit un terme assez tendre, assez précis, qui dit une relation assez particulière. Voilà. Voilà. En tout cas, Jésus va amener de fait une contribution au monothéisme juif et va poser les fondements pour l'évolution d'un monothéisme chrétien. Mais il n'est pas le seul. Le monothéisme chrétien va subir d'autres influences. Si Jésus en représente le fondement, Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Il est le fondement, il n'est pas le fondateur. Je crois qu'il faut là-dessus. Quoi. Alors, lorsque nous parlons du monothéisme, nous avons souvent, mais je passe là-dessus, nous avons souvent une représentation monolithique. Or, le monothéisme chrétien va se caractériser assez vite par un dieu, mais qui n'est pas un dieu singulier. La représentation du monothéiste du christianisme est une représentation trinitaire, sous les trois figures, Père, Fils et Esprit. Donc il convient de ne jamais oublier, d'ailleurs, si on veut comprendre quelque chose, que ce ne sont pas trois dieux, ce n'est pas un trithéisme, c'est trois figures, c'est trois personas, comme on disait à l'époque, ce qu'on a traduit ensuite par personne. Mais évidemment, personne, ça induit en erreur, parce qu'on a une représentation d'une personne qui est dépendante du personnalisme. Oui. Et donc, le terme de personne induit en erreur. Et donc, c'est trois figures, si vous voulez, trois figures, trois manifestations du Père en tant qu'inaccessible, de Dieu, source et origine inaccessible, à travers Jésus, c'est-à-dire d'un Dieu qui se manifeste à travers l'humain, à travers l'homme, et de l'esprit, c'est-à-dire d'un Dieu qui se manifeste à travers les dynamismes de la création. Voilà. Cette simple évocation d'un monothéisme trinitaire suffit à faire voir qu'on ne peut pas dire qu'il y a un monothéisme. Le monothéisme chrétien est différent du monothéisme juif. Certes, c'est le même Dieu, mais il est différent du monothéisme juif. Et le monothéisme musulman sera différent encore. Donc, même pour le terme monothéisme, quand on a enlevé le monolatrisme, l'énothéisme, etc., même le monothéisme lui-même reste à mettre au pluriel, parce que ce sont des choses qui sont très nuancées et très compliquées. Voilà. Monothéisme dans la philosophie, grecque, mais je vais passer, parce que je ne veux pas dépasser le temps prévu. Voilà. Alors, je suis obligé de dire un mot du monothéisme musulman, parce que là, on est en présence d'un monothéisme qu'on peut qualifier de monothéisme strict et exclusiviste. Exclusiviste du polythéisme. C'est inscrit profondément dans la naissance de l'islam, et puisque vous savez que la Mecque est un lieu de pèlerinage polythéiste, et que donc et que le prophète va s'opposer au polythéisme et au pèlerinage dont vivait d'ailleurs y compris sa tribu, ce qui va lui poser quelques problèmes quand même, parce qu'il coupe quand même la branche sur laquelle économique, quoi. Donc l'exil à Médine va s'expliquer par là. Là, on est réellement en présence d'un monothéisme. Cinq fois par jour, le musulman répète « il n'y a de Dieu que Dieu ».« Il n'y a de Dieu que Dieu voilà. ». C'est un monothéisme clairement affirmé. Il est considéré comme originel aussi. Et l'islam, d'ailleurs, c'est la mission de l'islam, c'est de le rappeler. Un hadith du prophète dit ceci, « Tout nouveau-né, né monothéiste musulman. Voilà. » Ce sont ses parents qui le font juif, chrétien ou mazdéen. Le grand péché en islam, quand même, c'est d'être associationniste ou d'être polythéiste. Ceci étant, quand on a dit ça, il faut faire attention, parce que, quand même, quand on veut parler de Dieu dans l'islam, on a 99 noms. Ça fait quand même de la multiplicité, ça. C'est-à-dire que même dans le monothéisme que je viens de qualifier de monothéisme strict, vous voyez de la multiplicité dans sa désignation. Ce qui a posé des problèmes insolubles aux théologiens, enfin pas insolubles, peut-être, enfin, des gros problèmes aux théologiens musulmans, qui vont être obligés d'accorder, si vous voulez, ce monothéisme strict avec cette pluralité de désignation du divin. Je conclue cette première partie qui a été longue, et les autres seront plus courtes, je vous rassure. Derrière le mot polythéisme, vous l'avez vu, se cachent bien des manières différentes de parler du divin. Entre le monothéisme exclusiviste d'Akhenaton, le monothéisme inclusiviste des Achéménides ou de l'auteur biblique sacerdotal, le monothéisme de Moïse, le monothéisme trinitaire ou le monothéisme strict de l'islam, il y a des représentations très diverses du divin. Dès lors, parler du monothéisme sans préciser de quel type de monothéisme on parle contribue à brouiller la pensée plus qu'à l'éclaircir. J'en viens à ma seconde partie. Le polythéisme. Je rappelle ce que je disais au début, c'est que ce concept s'est formé aussi au XVIIIe siècle et que c'est un concept polémique qui s'oppose à celui de monothéisme. Quelle est la pertinence de ce concept? Dans les religions polythéistes traditionnelles, pour ceux que j'en connais, le polythéisme ne signifie pas la dispersion des dieux. La multiplicité des dieux dans le polythéisme ne s'oppose pas nécessairement à l'unité. Il y a souvent une convergence. Si vous regardez les polythéismes, la plupart du temps, le monde divin est orienté, le monde divin lui-même est orienté vers un dieu unique qui les a créés. Nous avons une vue déformée du polythéisme parce que nous projetons l'idée de la foi en un seul dieu sur la foi à plusieurs dieux. Or, quand on change du monothéisme au polythéisme, on change le paradigme. C'est-à-dire que le polythéisme n'est pas une simple reproduction au pluriel d'une foi unique au singulier. Voilà, je ne sais pas comment le dire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il nous faut déjà prendre une distance par rapport à ça. Deuxième remarque sur le polythéisme. La pluralité des dieux relève d'une vision du monde. Les dieux sont des aspects de la représentation du monde, des aspects de la représentation de la vie, de la mort, des saisons, du temps, de la lumière. On confère à ces aspects des noms, des rôles, qui sont autant de dieux et qui participent à la sphère du divin. Le polythéisme est donc une des formes de représentation du réel. Or, cette pluralité des dieux est organisée. Les dieux sont en relation les uns avec les autres. Cette articulation, d'ailleurs, au sein du panthéon, s'exprime souvent par des liens de parenté. Chaque divinité a des relations avec les autres. Ainsi, si chaque dieu représente un aspect du réel ou de l'expérience humaine du réel, leur ensemble constitue un tout organique, si bien que la multiplicité des dieux n'est pas un signe de dispersion, mais une manière de s'opposer à l'unité, à l'un. Ce serait appliquer des schémas inappropriés, trop abrupts, qui en tout cas ne nous permettraient pas de comprendre le polythéisme. Monothéisme et polythéisme sont en fait des rapports différents à l'unité et à la multiplicité. Mais on ne peut pas mettre le polythéisme du côté de la multiplicité et le monothéisme du côté de l'unité. C'est plus subtil que ça. De plus, il y a une hiérarchie entre les dieux. Dans le panthéon, l'un des dieux, souvent, est le dieu suprême qui s'impose aux autres. Cela fait partie de l'agencement cosmologique. Zeus occupe une place prépondérante dans le panthéon des Grecs. Dire cette hiérarchie, c'est faire valoir qu'il n'y a pas que multiplicité, il y a aussi agencement, organisation des dieux, avec un dieu qui occupe la place centrale. Dans le polythéisme, par ailleurs, on a des catégories différentes de dieux. On a généralement des dieux cosmiques, qui sont présents dans toutes les cultures. Ainsi, dans l'épopée babylonienne d'Atraracis, où les dieux tentent d'exterminer l'humanité parce que les hommes font trop de bruit, heureusement, il y a un rituel qui est donné à Atraracis pour enrayer l'épidémie de peste. Les dieux cosmiques donnent à Atraracis ce mode d'emploi pour pouvoir permettre au cosmos de fonctionner, de continuer de fonctionner dans sa marche. Et les religions amérindiennes sont très très importantes du point de vue des dieux cosmiques. D'autres catégories de dieux sont soit des dieux tutélaires. Ce sont les dieux qui ont de la puissance sur un territoire donné ou sur un peuple. Un peu comme je l'ai dit pour Yahvé tout à l'heure. Enfin, il y a le dieu personnel, c'est-à-dire chacun entretient avec une divinité, un dieu particulier, une relation privilégiée. On penserait que ce serait plus tardive, ça m'approche d'un dieu personnel. Et il faut faire attention parce que nous ne projetions pas les vues occidentales là aussi. Voilà. Nous avons aussi beaucoup de naïveté dans notre représentation des dieux. Nous pensons, nous, parfois, que les gens adorent les figurines de pierre ou les représentations qui se font. Mais les gens, ils se font des représentations des divinités à travers des objets. Mais ils n'adorent pas nécessairement ces objets. Ils savent bien que ces objets représentent, rendent présent le divin. Et ils n'identifient pas ces objets avec le divin. Ils ne sont pas fous, les gens. Bon, voilà. Ils ont conféré à ces objets une certaine valeur, parce qu'il faut qu'ils aient une certaine valeur. Donc ils ont fait des rites pour les sacraliser, pour leur conférer un caractère de sacré. Mais ils savent bien que l'objet est une figure, une figuration, que l'objet représente la divinité d'une certaine manière, parce qu'il la représente, la divinité est un peu là, mais en même temps, la divinité ne s'épuise pas dans l'objet qui est censé l'évoquer ou la suggérer. Voilà, il faut faire preuve de beaucoup plus de respect de ces cultures, de ces religions. Les gens sont plus intelligents que ça, quoi. Ils ont réfléchi leurs affaires. Voilà. J'ai noté un texte de Nietzsche que je n'ai pas le temps de citer, il est très très beau là-dedans. Voilà. Alors, la pensée binaire, vous voyez bien, ne peut pas rendre compte de la pensée religieuse du divin, parce que, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer précédemment. J'ai un de mes amis qui est un spécialiste des religions amérindiennes, et j'ai eu maintes fois l'occasion de l'entendre s'exprimer, dans le cadre d'un laboratoire de recherche en particulier sur les textes sacrés, et il m'a convaincu de ce fait. Si on considère par exemple la religion aztèque, la diversité des dieux n'empêche pas l'existence d'une entité suprême dont émane l'ensemble du monde créé. En l'occurrence, ce dieu s'appelle Ométhéotl. Le culte aniconique d'Ométhéotl, aniconique, ça veut dire sans représentation, il n'est pas représenté, Ométhéotl, était réservé à quelques initiés qui le priaient comme, je cite, « le dieu qui donne la vie, le dieu par qui tout vient, le dieu qui vient ». Pas de doute, on est en présence là, d'une certaine manière, d'un monothéisme ontologique, si je peux dire. De qui vont dépendre les autres dieux aztèques, hein, que j'hésite à prononcer, parce que vous savez comment c'est difficile de dire ces choses-là, Tezcatlipoca, Quetzalcoatl, etc. Il semblerait qu'on soit en présence du même phénomène face à un bon nombre de cultures d'Afrique noire. Michel Bellin dit ceci, à première vue, je cite, « une importance plus grande semble accordée à des génies, à des fétiches, plus ou moins immanents, auxquels l'être suprême a confié des fonctions précises dans l'ordonnance du cosmos. Dans toute l'Afrique noire, Dieu se tient hors de la mainmise des hommes, de l'homme, parfois si loin que certains l'appellent le maître des oubliés. Il est un être pur, dénué de toute représentation anthropomorphique et qu'on ne peut atteindre que par des intermédiaires. Il est dans le secret de l'initiation inviolable, dit un rituel Bambara. Il y a là coexistence, si je puis dire, d'un monothéisme qu'on peut qualifier d'ontologique et d'un polythéisme au sein d'un animisme qui rencontre, entre guillemets, de la complexité du réel. Vous voyez comme la question n'est pas si simple. Et comme il est si difficile de pouvoir parler de monothéisme ou de polythéisme et de les opposer de manière aussi simple. J'en viens à la troisième partie, rapidement. Je voudrais faire quelques remarques. Il me semble avoir complexifié un peu la question du monothéisme et du polythéisme. Souvent, quand on travaille une question, vous savez, c'est le cas, au début, une question nous paraît simple, puis quand on a étudié un peu, elle paraît plus complexe, bien sûr. Donc, je crois que c'est bon signe si la question se complexifie un petit peu. Il me semble qu'on ne peut pas parler d'un monothéisme monolithique et d'un polythéisme pluraliste. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, je voulais faire maintenant trois remarques. Il y a une première idée qui porte sur la question des monothéismes. Est-ce que le monothéisme est violent, est plus violent que le polythéisme? C'était la première, avant d'avoir le titre qu'on m'a donné, c'est la première question qu'on m'avait posée pour penser à cette question. Je la reprends rapidement là. Je crois qu'il est difficile de dire que le monothéisme, parce qu'il serait monothéiste, serait plus violent que le monothéisme, que le polythéisme. Je ne crois pas que l'histoire résisterait à cette affirmation-là. Rien que si on prenait, je ne vais pas le faire, mais si on prenait ce que je viens de dire précédemment, on voit bien que le monothéisme d'Akhenaton a été violent, il a fermé les temples et les cultes, le polythéisme de Toutankhamon n'a pas été non plus de plus serein, il est aussi violent. Donc je ne pense, pense pas que ce soit plus simple. Je ne pense pas que le monothéisme en lui-même, le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, puisse entraîner pour autant la violence. Qu'est-ce que je pense au rapport entre le christianisme et l'islam? Les sources les plus autorisées dans l'une et l'autre tradition reconnaissent que c'est bien du même Dieu qu'il s'agit. Ils le caractérisent même étant comme étant unique et miséricordieux. Ça ne les a pas empêchés, les musulmans et les chrétiens, de vivre un certain nombre de violences au cours de l'histoire. Si bien que je ferai volontiers l'hypothèse que la question de la violence ne tient pas au fait de croire en un seul Dieu ou de croire en plusieurs, mais elle tient à la relation qu'une religion entretient avec son objet de croyance. C'est la manière dont une religion se rapporte à cet objet de croyance que la violence peut ou non surgir, me semble-t-il. Regardez, le polythéisme lui-même fait preuve d'un certain nombre, d'un certain type de violence, d'une certaine capacité à s'imposer aussi. Vous savez, les dieux à Rome, où il y a bien eu tel ou tel empereur qui a été suffisamment intelligent pour ouvrir au maximum le panthéon, mais les dieux à Rome, ils n'avaient pas accès au panthéon romain comme ça. Ils ne devenaient pas citoyens romains, si je puis dire, aussi facilement. Il fallait qu'il soit accepté par le Sénat. Donc, il fallait une autorisation du pouvoir politique. Donc, vous voyez, la question de la violence, cette question de la violence, on va la retrouver avec le polythéisme. On va la retrouver, par exemple, quand on va imposer un empire à un certain nombre de gens de faire les sacrifices. Les sacrifices d'un empire romain, surtout à partir de Caracalla, vont être imposés à tous les citoyens romains. Si bien que des pythagoriciens, par exemple, qui étaient hostiles à l'économie sacrificielle, ou des chrétiens ou des juifs, vont être obligés de sacrifier, ou bien vont ouvertement s'opposer. Et là, ça va être source, ça va générer de la violence. Voilà. Tout ça pour dire que là aussi, il me semble que la question est un peu plus compliquée. Je pense qu'on est renvoyé à un autre niveau, qui est le niveau de la relation que les religions entretiennent avec leur objet de croyance. L'objet de croyance des religions, c'est le divin, c'est la divinité. C'est la divinité. La divinité se présente pour les religions comme étant l'absolu. Le problème avec les religions, c'est que parfois, elles croient qu'elles aussi, elles sont absolues. C'est-à-dire, elles s'identifient à la divinité qu'elles prétendent servir. Et prétendant servir la divinité, elles se servent elles-mêmes. Alors ça, c'est une des sources, une des grandes sources de violence des religions, me semble-t-il. Il y a des régulations internes et externes qui sont nécessaires à cela. Il y a des régulations internes dans les religions. Pour éviter aux religions de se prendre pour l'absolu, il y a des régulations internes qui sont la place de la raison, je crois que vous avez un peu parlé la dernière fois, la place de la raison dans les religions. Les religions, elles sont toujours dangereuses parce qu'elles touchent aux énigmes de l'existence et elles touchent à de l'irrationnel. Donc elles sont dangereuses. C'est pour ça, mais c'est comme ça, c'est pas bien grave, mais c'est dangereux. Voilà. Donc, il faut les réguler. Donc il y a des régulations. La raison est une nécessité pour les religions parce qu'elles ont une part d'irrationnel, et une part d'irrationnel dans le sentiment religieux, dans l'expérience religieuse, et donc il faut que la raison intervienne par rapport à ça. Il y a la raison, il y a les mystiques aussi, qui rappellent toujours aux religions qu'elles ne sont pas dieux. Voilà, en gros, ça leur attire généralement quelques ennuis d'ailleurs. Et puis il y a les prophètes qui, eux, ils ont le chic de montrer qu'entre ce qu'une religion prétend dire dans ses textes fondateurs et ce qu'elle vit, il y a un large espace. Alors eux aussi, ils empêchent un peu de tourner en rond et du coup, ils n'ont pas toujours bonne presse dans les religions. Mais ce sont les régulations internes. Et puis il y a nécessité de régulation externe et ce sont les régulations du politique. Car les régulations internes ne suffisent pas. Et il faut des régulations du politique. Mais les régulations du politique elles-mêmes ne sont pas une garantie suffisante. Parce que le politique peut aussi très bien instrumentaliser les religions. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des exemples bien loin. Et il n'y a pas que dans l'islam. Voilà, monsieur Bush en sait quelque chose. Voilà, donc il y a bien des manières de. C'est passé un peu comme question non plus. Et en plus, et alors le politique peut faire deux choses. Il peut instrumentaliser les religions. Et c'est vite fait. Et c'est vite fait. Il peut aussi les marginaliser pour pas qu'elles viennent embarrasser le champ. Mais il faut faire attention parce que les religions marginalisées, les religions, c'est une grande force dans les cultures. Et quand des peuples se sentent opprimés par le politique, ils ont recours aux religieux, ils prennent appui sur le religieux et ils font péter le politique par le religieux. Si vous voulez, l'exemple de la Pologne, par exemple, est un exemple récent dans notre histoire. Voilà. C'était un repli des peuples qui se sont agressés dans leur culture, sauf que d'aller repuiser dans le terreau culturel du religieux pour pouvoir réagir à un politique qui se fait oppressant, qu'il soit interne ou externe. C'était mon premier point. C'était quelques variations sur la violence, évidemment, on peut en parler plus longuement. Mon deuxième point porte sur la question de l'universel et du particulier. Évidemment, le monothéisme, lui, se prétend universel. Il se prétend universel. Or, les cultures, elles, sont particulières, toujours particulières. Or, c'est le rapport du particulier et de l'universel, me semble-t-il, qui est problématique. C'est pas la question de savoir si le monothéisme, c'est plus le monothéisme ou plus le polythéisme, c'est pas ça. C'est le rapport de l'universel au particulier. La tendance existe toujours d'imposer l'universel. Je pense, c'est très difficile, je pense à la question des droits de l'homme. Vous voyez, je passe de la religion à une idée, en fait, à un concept. Le concept de droit de l'homme élève la prétention d'être un concept universel. Certains le contestent. Moi, personnellement, je ne le conteste pas. Mais à condition que ce concept universel ne prétende pas être universellement pensé partout de la même manière. Il faut qu'il soit reçu de manière particulière dans des cultures. L'autre jour, j'ai eu la chance de discuter avec Guillebeau, mon mari, Claude Guillebeau, qui était ensemble. Et il disait ça, j'ai ignoré ce fait. Il disait que les droits de l'homme, par exemple, dans certaines cultures africaines, ils disent, nous, on veut bien le recevoir, mais on veut rajouter deux articles. Parce qu'il n'y a rien sur la solidarité. Il n'y a rien sur la solidarité familiale en particulier. Est-ce que les cultures africaines n'auraient pas le droit d'ajouter des choses sur la solidarité au concept que nous avons élaboré des droits de l'homme? Rien que ça. Est-ce que nous ne pourrions pas apprendre par eux quelque chose de la solidarité? Pourquoi pas? C'est de cette manière que je conçois qu'un universel qui reste un universel puisse être reçu de manière particulière dans des cultures qui ont à se le reprendre, à le réapprivoiser. Il me semble que la question se pose aussi pour les religions, c'est-à-dire que les religions ne peuvent pas s'imposer en s'imposant comme universelles alors qu'elles sont liées à des cultures et que même lorsque ces religions ont une prétention universelle, elles nécessitent de repasser par la particularité des cultures. Dernier point, vous permettrez aux théologiens de poser une question. Est-ce que, du point de vue de l'expérience de Dieu, le monothéisme est plus valable que le polythéisme ou le polythéisme plus valable que le monothéisme? C'est la question du théologien. Alors je vais répondre de la manière suivante. Je comprends bien que là, autant j'ai fait tout pour avoir la plus grande objectivité possible, comme c'est nécessaire dans ce cadre-là. Là, je comprends bien que j'engage un peu qui je suis. Je pense que ce qui est. Qu'on ne peut pas mettre en doute l'expérience de quelqu'un. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous dit je fais une expérience, vous ne pouvez pas dire c'est faux, tu ne fais pas l'expérience. Si quelqu'un vous dit je fais une expérience de Dieu, vous ne pouvez pas dire c'est pas vrai, tu ne fais pas une expérience de Dieu. Je ne crois pas que ce soit possible. Si quelqu'un me dit je fais une expérience artistique, je lui dis, je ne peux pas lui dire c'est pas vrai, tu ne fais pas une expérience artistique. Reste un sauf pour moi de dire cette personne-là dit qu'elle fait une expérience et je ne remets pas en cause le fait qu'elle fait une expérience, pour moi, ce n'est pas nécessairement l'expérience de Dieu. Ça reste heureusement. Heureusement, je ne suis pas obligé d'adhérer aux deux dieux. Mais je ne peux pas remettre en cause le caractère d'expérience que quelqu'un dit. Quand quelqu'un, pour le polythéisme, pour faire bref, dit qu'il fait une expérience de Dieu, je ne vois pas au nom de quoi je pourrais remettre en cause l'expérience qu'il prétend faire. Et quel intérêt ça a pour quelqu'un qui, lui, prétendrait faire une expérience d'un Dieu unique, Eh bien, il me semble que dans l'un et l'autre cas, la considération positive de l'expérience de l'autre oblige à s'enfoncer plus avant dans ce que Michel Guérin appelle l'expérience humaine du divin. L'expérience humaine du divin. En sachant que l'expérience humaine du divin, ou ce que les gens appellent l'expérience humaine du divin, est toujours une expérience difficile, auquel aucun concept contingent, dont aucun concept contingent ne peut rendre compte. C'est pourquoi, dans les religions et dans les mystiques, le seul mystique que je connaisse un peu, c'est les mystiques chrétiens ou musulmans, la connaissance de l'ultime, c'est toujours une connaissance qui est soit analogique, donc on l'exprime à travers des images, soit apophatique, c'est-à-dire on passe son temps à dire ce que ce n'est pas, ce qui est déjà pas mal pour parler d'une expérience. Je conclue par quelqu'un, par un mystique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Abdelkader. Il dit ceci, c'est pas au propos, vous verrez. Il discute avec Dieu. Dieu me dit, et moi qui suis-je? Je répondis, tu es le parfait, le transcendant de tout ce qui peut venir à l'esprit. Il me répondit, tu ne me connais pas. Je lui dis sans crainte de manquer de respect, tu es celui à la ressemblance de qui sont toutes les créatures contingentes. Tu es le Seigneur et le serviteur, l'un et le multiple, en toi se conjoignent les contraires et les opposés. Il me dit, cela suffit, tu me connais. Voilà, merci de votre attention.